Thank you, Mr. Chair.
Je vous remercie, Monsieur le Président. Je vous remercie de vos propos liminaires très utiles, ainsi que de vos commentaires tout aussi utiles. Nous vous remercions de diriger nos débats. Comme nous l'avons indiqué dans notre discours hier, nous sommes d'avis que le jugement et les contrôles humains sont essentiels pour garantir le respect du droit international et en particulier du DIH. Les obligations dans le développement et l'utilisation des systèmes d'armes autonomes sont liées à cette question. Nous avons évoqué des expressions différentes, contrôle humain suffisant, contrôle humain effectif, etc., etc. Notre document indique que conformément à la directive C, le jugement et le contrôle humain doivent être maintenus afin de respecter les obligations juridiques associées au DIH. Il y a différents moyens d'appliquer un tel contrôle humain en fonction des systèmes, de l'autonomie et du niveau d'autonomie, ainsi que du contexte de la cible. Ce qui est clair, c'est que le jugement et le contrôle humain doivent aller au-delà du contrôle nominal, comme l'indique le document de la Palestine notamment. Nous reconnaissons que les types spécifiques d'autonomie présentent des défis particuliers, par exemple les caractéristiques d'apprentissage profond dans le cadre de l'intelligence artificielle. Premier exemple, nous devons nous assurer que les êtres humains puissent, entre autres, mettre en place des limites spatio-temporelles en fonction de la situation et du contexte donné, et suivre la fiabilité et l'utilisabilité du système concerné. Deuxième exemple, l'application des règles du DIH, notamment celle de la proportionnalité. Nous sommes d'avis que le jugement nécessaire pour évaluer les pertes de vies humaines civiles, les dommages à des objets civils ou la combinaison des deux par rapport à des avantages militaires concrets et directs relève uniquement de la décision humaine. Nous suggérons que l'élément de contrôle et de commandement humain dépend constamment du contexte et qu'il est difficile de faire des remarques générales à ce sujet, mais il y a des facteurs spécifiques qui peuvent être identifiés qui sont pertinents pour l'exercice du contrôle et du jugement humain. Ces facteurs ne sont pas en tant que tels précisés dans le DIH, mais sont parfois implicites et deviennent clairs lorsque les règles du DIH sont appliquées dans la pratique. Ils doivent donc être pris en compte tout au long du cycle de vie du système, y compris dans la phase de développement. Toute une série de facteurs sont pertinents pour garder le contrôle humain tout au long du cycle de la vie dans le cadre des systèmes d'armes et nous pensons, après avoir entendu les différentes délégations, qu'il y a un accord sur les différentes parties qui doivent être mentionnées en la matière. Par exemple, à tout moment, les humains doivent être suffisamment assurés que le système, lorsqu'il est activé, soit prévisible dans son fonctionnement pour garantir que toute action soit parfaitement conforme au droit international applicable, aux limites qui s'imposent également à l'utilisation de ces armes pour les commandants. Par conséquent, les personnes qui développent ces armes, les commandants, doivent comprendre comment fonctionnent ces systèmes d'armes, leurs effets, leurs interactions possibles avec l'environnement. Ce qui permettrait aux commandants et aux opérateurs de prévoir et d'expliquer le comportement de ces systèmes d'armes. L'importance de la prévisibilité et de la contrôlabilité sont évoquées dans de nombreuses propositions, notamment celle qui a été fournie par un groupe de 23 pays. Au-delà de la prévisibilité et de la contrôlabilité, nous sommes d'accord également pour dire qu'il est important que ces machines soient compréhensibles, traçables et fiables. Ce qui nous donne cinq facteurs clairement énoncés dans le document palestinien. Nous pensons qu'il est important d'inclure ces facteurs dans le rapport final. Ensuite, au cours de la phase de développement, plus précisément, de déploiement, pardon, se reprend l'orateur, nous devrions définir les règles d'utilisation, notamment en définissant des limites spatio-temporelles qui pourraient varier en fonction de la situation et du contexte. Il s'agit en outre de suivre et de surveiller la fiabilité et l'utilisabilité du système. Cela a été d'ailleurs avancé par de nombreuses délégations. Il s'agit de faire une liste de ces facteurs dans le rapport final. À cette fin, nous pensons que la proposition du groupe de 23 États est particulièrement utile. Ensuite, lorsque on parle d'utilisation des systèmes d'armes. L'être humain doit également être à même de s'assurer qu'il respecte ses obligations du droit international humanitaire, notamment distinction, précaution, proportionnalité, ce qui comprend l'approbation humaine pour toute modification substantielle apportée aux paramètres de la mission. aux liens de communication, à la capacité de désactiver le système si et dès lors c'est nécessaire, à moins que ce ne soit pas techniquement faisable. Nous nous félicitons du nouveau document de travail proposé par les États-Unis, les Royaumes-Unis, le Canada, la République de Corée, l'Australie notamment, qui rentre dans le détail de ce que ces principes du DIH exigeraient dans le cadre de l'utilisation des SALA, dans le cadre d'un conflit armé. Je vous remercie, Monsieur le Président.